Vincent Caillavé pour le Forum des Jeunes, troisième émission de l'année. C'est, vous le savez, le principe de l'émission que d'accueillir des jeunes de moins de 30 ans pour écouter leurs témoignages, témoignages de leur engagement, de leurs expériences, de moments forts qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, je suis avec Julien Barbier qui va exposer, qui expose en ce moment à Govillé, les photos qu'il a prises pendant une expédition au Chili. Donc il va très rapidement se présenter et puis présenter le projet d'expédition. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, on regardera les photos de cette exposition et puis on en profitera pour essayer de découvrir un petit peu ce qu'il a vécu là-bas. Julien, bonjour, je te laisse te présenter.
Bonjour, donc j'ai 23 ans, j'habite à Govillé, dans le Saint-Ouen, et je suis étudiant à l'ENSAIA, une école d'agronomie qui a sur le plateau de Brabois à Nancy. Et il y a un an, je suis parti au Chili afin d'y réaliser le projet AeroChili, qui est une étude de la diversité des territoires et des enjeux environnementaux reliés à ces territoires.
Cette expédition, tu es parti à quel moment, à quelle période et combien de temps ça a duré ?
Je suis parti en août 2010 et je suis revenu en février 2011. Donc ça a duré à peu près 5 mois et demi.
Donc c'est une expédition qui n'était pas organisée dans le cadre de tes études, mais qui était une interruption dans tes études.
Oui, alors j'ai eu la chance de la faire au cours d'une année de césure. C'est en fait une pause dans le cursus scolaire qui peut s'apparenter à l'année sabbatique, sauf qu'on conserve le statut d'étudiant. Donc j'ai eu un an de pause, j'en ai profité pour préparer mon projet et pour partir au Chili.
Donc c'est pas un projet en lien avec tes études, même si tu as essayé de rattacher des thèmes ou pas ?
Voilà, je suis passionné par les choses que j'étudie, entre autres l'agronomie et le développement durable. Donc j'ai essayé de mener un projet qui allait dans cette optique. Un projet dans lequel je pouvais utiliser le bagage emmagasiné pendant ces 3 ans d'études et que je pouvais réutiliser à bon escient. Conjointement au paramoteur, puisqu'un autre aspect du projet sur place était la photographie aérienne en parapente motorisée, donc on appelle aussi le paramoteur. Et donc les deux, l'aspect agronomique et vol en paramoteur, se complétaient très bien pour réaliser cette étude.
Donc en fait, tu pars au printemps dernier avec ton paramoteur, avec tes bagages et avec l'idée de traverser tout le Chili pour prendre des photos, des paysages et pour les découvrir et les décrire.
L'idée c'était exactement ça, partir tout au nord du Chili et arriver 5 mois et demi plus tard tout au sud en vol. Sauf que mes objectifs ont été un peu entaillés par une entorse à la cheville avant de partir. Donc du coup, j'ai pris le parti de me déplacer en bus entre chaque étape, de manière à soulager la cheville. Et une fois arrivé sur place, je dépliais le paramoteur et j'allais voler pour réaliser l'étude.
Voilà, donc on s'approche du coup de la première photo. Donc au premier plan, on a des parcelles agricoles et on a dans le deuxième plan un village et puis tout autour des montagnes qui s'étendent. Je te laisse en dire un petit peu plus.
Oui, alors on se situe sur le village de Poutré, sur la précordière des Andes, qui est à 3550 mètres précisément. On voit que c'est un village qui est, on peut dire, construit sur une île, puisque de part et d'autre il y a des ravins de plus de 100 mètres. On voit aussi, comme tu le disais, en l'occurrence, ce sont des parcs de luzerne, des champs de luzerne qui servent de fourrage aux animaux, en l'occurrence les alpagas et les lamas. Ce sont des conditions de vie relativement difficiles à cause du froid et du soleil aussi qui est très fort.
Donc ça, c'est un paysage que tu observes dès les premiers jours. En fait, dans cette exposition, les diapos sont présentés dans l'ordre chronologique de ton expédition.
Oui, le visiteur est invité, à tout comme je l'ai fait pendant 5 mois, à descendre le Chili et à constater par lui-même cette diversité des territoires. Et donc effectivement, là, on se situe, c'était le deuxième vol au Chili. Le premier au bord de l'océan Pacifique et le deuxième en plein milieu de la montagne.
Voilà, et donc ces étapes-là, elles étaient reconnues avant. Tu savais où tu allais débarquer et quel type de photos tu pouvais prendre ?
Oui, alors j'avais fait un calendrier prévisionnel qui dépendait d'une part de l'intérêt des territoires à étudier, de la réglementation aérienne. Elle est light, mais il y en a quand même une qui existe au Chili. Elle dépendait aussi des conditions météorologiques, puisqu'elles ne sont pas les mêmes suivant la position, la latitude à laquelle on se trouve sur le pays. Et au bout d'un mois, donc j'ai évolué comme prévu pendant un mois. Et au bout d'un mois, j'ai eu l'agréable surprise de me faire contacter par des familles chiliennes qui m'ont proposé de me recevoir chez elles. Donc depuis la fin du mois de septembre jusqu'à la fin du projet en février, j'ai navigué de famille en famille et jamais plus je n'ai dormi sous ma tente, comme ce fut le cas le premier mois.
D'accord, donc dans ton idée de parcours, tu pensais pendant les 6 mois dormir sous tente, et puis le contact avec la population était prévu quand même ou pas ?
Oui, le contact était prévu. Alors soit en faisant, en y allant entre guillemets au culot, en faisant du porte-à-porte, où j'avais aussi, avant de partir, noué des relations de partenariat avec 3 associations chiliennes. Donc dans tous les cas, c'était des personnes que je devais aller rencontrer pour qu'elles m'en disent un peu plus sur la diversité des territoires.
Donc là, donc deuxième étape de ton voyage. On avance peut-être sur la photo suivante, où finalement tu zoomes sur une exploitation en particulier.
Voilà, alors cette photo, elle est très pratique pour résumer les moyens dont j'ai réalisé la façon dont j'ai réalisé le projet. Concrètement, je volais et je faisais un grand cercle, ce qu'on appelle un vol en local, et je prenais des photos. Donc là, j'ai pris une photo verticale, on se situe à peu près à 400 mètres de haut, d'une exploitation agricole. Donc on peut penser que c'est une petite exploitation agricole. Et on voit que la photo se compose de 2 parties. Une partie gauche, on voit des bâtiments d'élevage. Alors a priori, on se dit peut-être pour des alpagas. Et une partie droite, où on voit toute une partie cultivée avec des serres et des petites parcelles de maraîchage. Donc une fois que j'ai pris la photo là, je la regarde quand j'atterris, je la regarde de nouveau, j'étudie d'un peu plus près et je cherche à la remettre sur une carte pour aller rencontrer, pour me repérer et aller rencontrer la personne qui tient cette exploitation par exemple.
Ça veut dire que là, tu es allé par exemple ici pour cette photo, tu es allé toquer à la porte de la personne qui habitait là.
Oui, j'ai eu la chance de rencontrer l'agriculteur. Qui a eu grand plaisir à m'expliquer son métier, à me décrire les caractéristiques de son exploitation. Donc il élève 15 alpagas et il cultive aussi des carottes, des choux-fleurs et du chou rouge pour sa propre consommation, pour vendre sur le marché et aussi pour nourrir les animaux.
Mais ça veut dire que tu maîtrisais l'espagnol avant de partir ?
Alors non, malheureusement j'avais prévu d'apprendre l'espagnol dans le cadre de la préparation du projet, mais j'avais trop de soucis concernant les détails techniques et le budget financier qui restait à boucler, donc j'ai pas pu me consacrer à l'apprentissage de l'espagnol. Donc c'est vrai que le premier mois a été assez dur au niveau de la langue, mais même sans parler la langue, on peut balbutier quelques mots et avec le dictionnaire c'est facile à s'en sortir. Et au bout d'un mois, quand j'ai été dans les familles, le déclic a été beaucoup plus rapide. Et notamment avec les enfants qui m'apprenaient l'espagnol, moi je leur apprenais le français. C'était un très bon moyen d'échange.
Oui, donc l'idée c'était aussi pour toi d'essayer de comprendre les difficultés de cette population et leurs préoccupations au quotidien. Par exemple, ici, on voit sur... qu'une partie des parcelles est irriguée, le rapport à la ressource en eau, c'est quelque chose qui t'intéressait dans ton questionnement ?
Oui, le rapport à la ressource en eau de la population chilienne est un sujet très important, un sujet très problématique, partout dans le Chili, sauf dans cette région extrême nord, et dans la cordillère des Andes, où l'eau est une ressource qui ne pose pas de problème. Mais sinon, dans tout le reste du Chili, et on aura l'occasion de le voir avec des photos suivantes, l'eau pose énormément de problèmes.
D'accord, ben on va faire une première pause ici, et puis on va continuer d'observer les photos juste après.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida. noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él.
Voilà, alors là on change complètement de paysage, on n'est plus face à un village, mais on est face à une immense ville qui semble s'étendre près d'une dune de sable. Bah, je te laisse nous en dire plus sur ce paysage.
Oui, alors on se situe sur une ville au nord, sur la côte pacifique, donc on ne voit pas, mais c'est une ville qui fait face à l'océan Pacifique et qui est construite en plein sur une dune, une grande dune de sable. Alors ce qui est déjà intéressant, c'est de voir trois organisations de construction face à l'océan Pacifique qu'on peut imaginer à la droite de la photo. On a des villas de luxe hein, avec des grands immeubles, avec des piscines. Ensuite, on va dire on a les habitations de ce qu'on pourrait qualifier la classe moyenne. Et à l'arrière-plan, on a alors ça, ça visuellement ça s'apparente à des bidonvilles, même si officiellement ce n'est pas classé de la sorte. Mais en tout cas, des habitations beaucoup plus modestes avec des gens aux revenus bien plus modestes. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut voir. Et en allant, en atterrissant et en étudiant, en se baladant dans les rues, on constate qu'il y a de nombreux éboulements de terrain, effondrements de terrain. Puisque la ville est construite sur le sable, et avec le réseau d'adduction et le réseau d'eau, il y a un ravinement de ce sable, et des fois des routes s'écroulent, ou même des maisons s'écroulent, puisque les fondations ne sont plus soutenues.
Il y a combien d'habitants dans cette ville ?
Il y a 50 000 habitants environ.
Et alors, donc pour le village et les exploitations, je comprends bien que tu sais où aller toquer et tu sais à qui demander des précisions, mais là, tu t'adresses à qui en arrivant dans ce village-là ? Déjà, est-ce que c'est dans le premier mois, dans cette ville, est-ce que c'est dans le premier mois où tu campais le soir et où tu connaissais pas les habitants, ou est-ce que c'est dans la suite de ton expédition où les gens t'appelaient pour te faire dormir chez eux ?
Alors là, non, on se situe dans le premier mois. Donc je dormais dans une tente à la périphérie de la ville, et je me baladais un coup avec le paramoteur en ville, puisque j'avais adapté des roulettes pour pouvoir me déplacer avec, et j'ai la bonne surprise de me faire interpeller par un Canadien. un diplomate canadien qui a la double nationalité chilienne et canadienne. Et il s'étonnait un peu de la machine, de l'étrange machine que je faisais rouler. Et comme ça, en 10 minutes, on discute et il m'invite à venir dormir dans son appartement, un très bel appartement face à la mer. Il travaillait la journée, donc il me faisait totalement confiance et il m'a offert la possibilité de rester une semaine dans sa maison, alors qu'il ne me connaissait pas auparavant. Donc j'ai eu la joie de remballer la tente et d'aller dormir dans un bon lit.
Donc là, lui, il vit sur la partie droite de la photo, dans ce que tu décrivais comme les appartements ou les villas de luxe.
Oui, lui, il vivait dans un bel appartement avec terrasse face à la mer. Alors on rejoint la problématique du projet, c'est lui qui m'a expliqué ce problème d'effondrement de terrain, d'affaissement de terrain. Et aussi, il travaille dans le secteur minier. Donc, il a pu me faire un constat relativement alarmant et des difficultés qu'a la ville à s'approvisionner en eau douce, puisqu'il y a beaucoup d'eau salée, l'océan Pacifique, mais le processus de désalinisation coûte beaucoup trop cher comparé à l'approvisionnement en eau qui vient de la cordillère des Andes.
Et donc, ils ont besoin quand même de passer par la désalinisation ou les ressources en eau de la cordillère suffisent ?
Les ressources en eau de la cordillère sont présentes, elles ne suffisent pas, d'autant plus qu'elles sont interceptées en chemin par des industries minières qui ont besoin d'énormes quantités d'eau pour le processus d'extraction du cuivre notamment.
Je te laisse choisir la photo suivante peut-être, ou est-ce que tu nous amènes ?
Alors du coup on va aller voir cette mine de cuivre justement qui pompe une grande partie de l'eau. Alors on se situe face à la mine de Chuquicamata, c'est la plus grosse mine à ciel ouvert au monde. Alors derrière ce terril que tu vois, ce tas de roches, il y a un grand trou qui fait 1 km de profondeur, dans lequel on extrait chaque jour 630 000 tonnes de roches, avec des engins énormes, hein. Ce sont des camions qui font la taille d'un immeuble, donc tout est démesuré. Une fois qu'on a extrait le minerai de cuivre, on fait le processus d'extraction dans l'usine que tu vois fumer à droite. Et quand le cuivre est extrait de la roche, on entrepose la roche sous forme de terril. Ce sont ces grosses montagnes qu'on voit là. Donc, pour contextualiser aussi le paysage, on se situe dans le désert d'Atacama, donc des conditions de vie difficiles, une amplitude thermique parfois de 50 degrés entre le jour et la nuit, beaucoup de vent. Donc aussi très difficile de voler, hein. Il fallait à 9h, il fallait être à tout prix atterri, sinon ça devenait beaucoup trop turbulent. Et donc cette mine a besoin d'énormes quantités d'eau. Et au Chili, il n'y a aucune régulation concernant le marché de l'eau. C'est-à-dire que l'État a décidé de mettre l'eau sur un marché en divisant la ressource en eau en droits d'eau, sous forme d'actions d'eau. Et si une entreprise ou un particulier au point de vue agricole, veut utiliser de l'eau, il doit payer des droits d'eau. Et ce qui se trouve, c'est que, bien sûr, ce sont les structures qui peuvent payer, qui vont acheter les droits d'eau. Donc, il y a une spéculation, il y a du business, le prix monte et les ressources deviennent inaccessibles, par exemple, pour les petits agriculteurs qui exploitent en milieu aride.
Alors, je te laisse nous emmener vers la photo suivante.
On se situe à 200 km de la mine précédente. Et on voit un canal bétonné qui descend de la précordillère des Andes et qui va dans le désert pour irriguer un village. C'est un village dans lequel j'avais planté ma tente.
Donc on est dans le premier mois là.
On est encore dans le premier mois, oui. Et c'est une chose qu'on voit pas du sol. Il faut prendre de l'altitude pour la voir. On voit qu'il y a un tas de soufre, donc ce gros tas blanc que tu vois au milieu de la photo, un tas de soufre qui est construit de part et d'autre du ruisseau, ce qu'on va appeler le ruisseau. Et on a un vent qui va d'ouest en est. Et lorsque le vent souffle, il projette le soufre dans le canal. Et donc, j'ai pu rencontrer le responsable de l'environnement de la municipalité qui me disait que cette eau-là devenait impropre à l'irrigation agricole. Alors je lui ai demandé, pourquoi c'est pas énorme, hein, la distance, il y a à peu près 300 mètres à couvrir. Pourquoi vous le couvrez pas ? C'est pour des soucis financiers. Ça coûterait trop cher de le couvrir ou de le faire passer en souterrain. Et la personne qui exploite ce tas de soufre ne veut pas se donner la peine de le faire. Donc, ça montre l'exemple de la ressource en eau qui n'est pas protégée ou en tout cas qui n'est pas exploitée à bon escient.
Parce que là, en fait, c'est le vent qui disperse le tas de... C'est du soufre, tu as dit. Le tas de soufre et qui, du coup, dégrade le canal. Mais le tas de soufre, il ne pourrait pas être déplacé de l'autre côté du canal ?
Oui, c'est aussi ce qui pourrait être fait. Mais là aussi, ça dépend de la volonté de son heureux propriétaire.
Mais lui, il a besoin de cette ressource en eau aussi, non ?
Il a besoin de cette ressource en eau, ne serait-ce que pour acheter ses fruits et ses légumes qu'il mange le midi. Mais concernant son activité à proprement dite, il n'en a pas besoin.
Donc, mais il n'y a pas de prise de conscience alors, visiblement.
Pour preuve, la création du ministère de l'Environnement remonte seulement à octobre 2010. Donc on voit que c'est quelque chose de très récent. Mais de manière générale, au Chili, il y a très peu de régulation dans le domaine environnemental. Et elle commence seulement à s'affirmer. Elle s'affirme surtout puisque par des mouvements de population, d'associations qui n'hésitent plus maintenant à se fédéraliser en réaction à de grands projets.
Et qui n'hésitent pas à se rassembler, puis qui n'hésitent pas aussi à s'exprimer. Visiblement, les gens t'ont assez facilement raconté ce qu'ils vivaient et leurs préoccupations.
Oui, j'ai eu la chance de rencontrer des gens très engagés dans leurs activités. Des gardes côtiers, des responsables environnementaux de telle ou telle structure. Donc vraiment des gens très motivés qui m'ont fait un bel état des lieux, en tout cas un état des lieux exhaustif de la biodiversité au Chili et des questions environnementales.
Tu veux nous faire voyager encore avec d'autres photos peut-être ?
On reste dans ce thème de l'eau et on vient de parcourir 4000 km puisqu'on se situe tout au sud du Chili, sur l'île de Chiloé. C'est une île qui se situe au nord de la Patagonie, donc cette région très touristique du Chili. Cette région très particulière aux contraintes naturelles majeures, puisqu'il y a beaucoup de vent, du froid et beaucoup d'eau. Sur cette île, par exemple, tu vois des paysages très verts, avec beaucoup de forêts, beaucoup de prairies, mais ils sont verts puisqu'il pleut environ 300 jours par an, donc 10 mois sur 12. Alors, c'est une région qui est menacée par un grand projet de construction de 7 barrages hydroélectriques qui seraient construits pour approvisionner la capitale, Santiago du Chili, en électricité. Puisque la capitale consomme à peu près un tiers des besoins énergétiques du pays. Il y a un choix à faire. On a un désert au nord avec beaucoup de vent et beaucoup de soleil. Donc la possibilité d'installer des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques, ou beaucoup de rivières avec des grands espaces au sud, donc la possibilité de faire des grands barrages hydroélectriques. Et ce qui se trouve, c'est qu'il y a le plus grand mouvement de protestation environnementale au Chili qui s'est monté en réaction à ce projet de barrage. Leur revendication, c'est notamment la perte en biodiversité, donc en patrimoine écologique mais aussi archéologique, et aussi le déplacement de population. Il y a une densité de population très faible dans cette région, mais il y a quand même une population. L'autre chose, c'est que ce projet entraînerait la construction de la plus grande ligne électrique au monde, soit 2300 km de câbles à haute tension entre la Patagonie et Santiago. Donc on se doute bien que pour les professionnels du tourisme, ça ne constitue pas un atout.
Et là, tu as pu rencontrer des populations qui étaient concernées aussi ?
Alors là, j'ai été hébergé par un plongeur dans un élevage de saumon, puisque cette région est aussi très tournée vers l'élevage de saumon. Et donc, il faut des plongeurs pour nettoyer régulièrement les filets et remettre, par exemple, les poissons qui s'échappent dans les filets intermédiaires. Et donc, il m'a surtout parlé de son activité et du secteur du saumon, qui est aussi un secteur économique majeur au Chili et qui a posé beaucoup de problèmes environnementaux et sociaux avec le déplacement de villes complètes. Il y a une ville qui se situe à 100 km de là, un peu plus au sud sur l'île, qui était basée exclusivement sur l'industrie du saumon. Et il y a en 2004, il y a eu un virus, le virus Isa, qui s'est propagé et donc qui a anéanti tous les élevages de saumon. Donc la ville s'est retrouvée totalement au chômage et elle a migré à Santiago pour retrouver un emploi.
Oui, alors c'est vraiment une façon de voyager sur, qui est surprenante et qui doit être très enrichissante. Finalement, tu as vécu d'expériences extraordinaires. Visiblement, tu as bien pu découvrir la vie de cette population qui s'est confiée à toi. Est-ce que tu as envie de retourner au Chili ou de retenter l'aventure ailleurs, du coup?
Oui, c'est sûr que j'ai une envie insaisissable de retourner au Chili, ne serait-ce que juste pour revoir les gens qui m'ont accueilli, juste pour ce plaisir, pour leur rendre visite et discuter à nouveau. Et j'aimerais bien aussi parcourir d'autres pays comme la Bolivie ou l'Argentine et faire des vols en paramoteur pour observer la même manière que je l'ai fait au Chili, mais dans d'autres pays.
Ce qui t'a marqué le plus, c'est ce contact avec la population, finalement?
Oui, c'est l'hospitalité chilienne, où des gens qui ne vous connaissent pas vous accueillent et vous disent que vous pouvez rester 3, 4 semaines, autant de temps que vous voulez dans leur maison. Et surtout, qui ont le cœur sur la main. Dès que les gens pouvaient se libérer de leur travail, ils quittaient plus tôt et ensuite ils m'emmenaient visiter leur région. Enfin, c'était vraiment des moments d'échange et de partage privilégiés.
Eh bien, merci Julien de nous avoir fait visiter le pays un petit peu avec toi. Et puis cette exposition, elle a été visible tout le mois d'octobre à Gauvillé, mais on pourra la retrouver normalement un petit peu plus tard sur Nancy.
Alors elle sera exposée tout le mois de janvier à la médiathèque de Vendeuvre et du 6 au 17 février à la maison de l'étudiant sur le campus Lettres.
Merci, c'était le troisième numéro du Forum des Jeunes. On se retrouve le mois prochain, à bientôt.